Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vous avez versé une larme en murmurant Dracarys lundi dernier. On compatit, nous aussi. Ça va aller, vous écoutez le chip.
Un petit bruit buccal, subtilement dosé. Le chip est en danger.
Rendez-nous le chip.
Bonjour, je suis Kevin Dona et comme toujours, je suis entouré de Mélanie Monga.
Bonjour Kevin.
Et de François Black.
Salut Kevin. Alors, il paraît que t'es pas très content à propos des affiches de Paris Sportif.
Ouais,
c'est ce qu'on disait avant l'émission.
Je trouve ça un petit peu abusé. J'en profite pour pousser un coup de gueule contre PMU, Betclic et compagnie. Et les agences de casting qui sont toujours très open sur la diversité quand il s'agit de nous voler notre bif. En fait, je l'ai même retweeté un monsieur qui s'appelle Nicky Lars et qui s'indigne. Tous ces noirs et arabes dans les pubs de Paris en ligne. Quand c'est pour nous faire gaspiller du bif, les castings sont toujours super ouverts. Hein. Donc sur les abribus, on voit fleurir des pubs. Pour les jeux en ligne, on voit des hommes noirs et arabes, jeunes et vieux, tout contents de claquer leur RSA dans l'addiction au jeu. Donc bravo, continue comme ça.
Et les filles, c'est généralement pour les cartes téléphoniques pour appeler au pays.
Ça me concerne pas, je regarde pas. Je ne suis pas touché.
Tu n'es pas intersectionnel.
Au sommaire de cette émission, on a l'adaptation d'un classique du cinéma français à Hollywood, j'ai nommé Intouchable. On a regardé l'adaptation américaine, The Upside. On va vous en parler, on va vous parler de ce qui a changé. Et puis on va se demander si c'était bien nécessaire d'en faire un remake. Ça aussi, ça compte.
La question se pose.
John Singleton nous a quittés il y a une semaine. C'était un grand réalisateur noir américain. Mel revient sur deux de ses films cultes. Poetic Justice et Boys and the Hood. Je vais peut-être un troisième film à ajouter, on verra peut-être si on a le temps. Mais avant tout ça, un gros trash ou iconique des familles.
Ouais, alors moi j'ai un iconique pour le rappeur Ateyaba, alias Joke. Black Twitter et Rap Twitter sont un peu en ébullition en ce moment parce que apparemment la semaine dernière... Kekra, donc rappeur du 92, et Ateyaba, rappeur originaire de Montpellier, pour ceux qui savent pas, se seraient battus, ils en seraient venus aux mains la semaine dernière lors d'un événement Red Bull. Donc faut savoir que Kekra et Joke, Joke c'est l'ancien Blaze de Ateyaba. Kekra et Joke, c'est deux représentants d'un rap très très niche, tu vois, très très américanisé, très référencé. Ils ont un univers assez avant-gardiste musicalement parlant.
Et tous les deux ont un côté le rappeur préféré de ton rappeur préféré.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça. C'est des rappeurs qui ont un public très fidèle, une bonne communauté, qui sont très suivis, mais c'est pas des gros rappeurs mainstream, on va dire. Ils ont un univers très chiadé, inspiré de la culture US, de la culture britannique et aussi japonaise, ce qui a provoqué beaucoup de blagues sur Twitter. En mode, j'espère qu'ils s'envoient des shurikens. Bref. Et donc, mardi dernier, à l'événement Red Bull qui avait lieu à la Gaîté Lyrique, si je ne me trompe pas, Kekra était tête d'affiche et Joke était invité surprise. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé réellement, on sait juste qu'ils en sont venus aux mains pendant les répétitions. Voilà, on ne sait pas comment ça a commencé. Apparemment, ils ont eu un échange verbal relativement amical et apparemment, c'est parti en steak et on ne connaît pas les vraies raisons ni les vraies conséquences de cette baston. On parle d'un nez cassé pour Kekra, sauf que Kekra, c'est un rappeur qui
est masqué.
Qui est toujours masqué, qui a toujours un visage couvert. Il était cagoulé ce jour-là, apparemment. Donc, comment savoir qu'un mec masqué a le nez cassé ? On
sait
pas.
Quand le sang coule sur le masque, peut-être ?
Non, mais c'est une vraie cagoule, tu vois, donc ça absorbe. et le truc le plus étonnant et le plus frustrant, c'est qu'il n'y a pas de vidéo. Genre, on est en 2019, ouais, Kekra et Joke. Voilà, Kekra et Joke se battent et il n'y a pas World Star Hip Hop pour
World
venir.
World Star!
Don't do this to us. Bref, ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 2016, Joke a tweeté un truc. Il disait que les rappeurs qui ne sont pas noirs, en fait, devaient arrêter d'utiliser le N-word. Donc que ce soit le mot nigger ou le mot négro, tout simplement.
Le mot nègre.
Plutôt, ouais. Enfin, peu importe la version, ouais. Mais en tout cas, dès que ça commence par un N, c'est proscrit. Et Kekra, en fait, est largement concerné. Parce qu'il y a plein de morceaux où Kekra, qui fait beaucoup de franglais dans ses morceaux, dit le mot nigger. Il y a un morceau qui s'appelle Faut que je fasse, qui est sorti en 2016, comme par hasard, où il dit comme ça, faut que je fasse des sous, c'est comme ça que ça marche, nigger. Il le répète, ouais. Tu vois. Donc en gros, Joe qui fait ce tweet et Kekra, peu de temps après, répond indirectement et sans hâter Joe, et sans dire que c'est pour répondre à Joe, qui dit je m'en bats les couilles. Je m'en fous, je vais continuer à dire les N-words. Et à ce moment-là, t'as Joe qui vient voir Kekra en DM et qui lui dit est-ce que c'est de moi que tu parles dans ton tweet ? Et Kekra lui répond assez froidement, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il fait genre t'es qui ? Il te fallait quoi ? Il te fallait combien ?
Yankee.
Ça Yankee, tu vois. En gros, il fait comme si le gars c'était un Yankee et qu'il voulait juste prendre sa dose, etc. Et donc Joe qui répond pas. Et le truc vraiment sale, c'est que derrière, Kekra en plus, il a posté l'échange.
Ouais. En DM.
Privé, il a posté l'échange sur son Twitter publiquement en mode ah, oh là là, mauvaise manipulation. Bref, donc je pense que depuis ce moment-là, Joe qui l'a un peu mauvaise. Donc peu importe en fait les raisons pour lesquelles ils sont vraiment battus, est-ce que c'est à cause de ces tensions résultantes, etc. On s'en fout un petit peu. Mais moi je vais donner un iconique pour Joe parce que je trouve qu'il importe en France un débat qui est très américain et qui devrait être un peu plus visible et exister un peu plus chez nous. C'est est-ce que des artistes racisés mais non noirs, donc comme Kekra, comme Hamza évidemment, comme Lafouine aussi, un peu plus à l'ancienne.
Est-ce qu'ils ont un passe ?
Ben voilà, des mecs qui sont pas noirs, mais qui sont maghrébins, mais qui sont quand même pas noirs, est-ce qu'ils ont le droit de dire le mot en haine ? Alors, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est un débat un peu ambigu, parce que, bon, on sait tous le tabou que revêt le mot en haine, mais lorsque ces mecs-là le disent, par exemple Hamza, je sais que c'est négumenté, tu sais, ouais. Sur le morceau avec SCH par exemple.
HS.
Ils le font par une sorte de jeu de référence avec l'anglais, tu vois. Ils l'utilisent un peu comme une interjection ou comme une virgule musicale, mais c'est pas, ils utilisent pas le vrai mot, tu vois, comme s'ils parleraient. Et je pense pas que quand ils parlent, ils disent ah salut négro, ça va, etc. Tu vois, c'est plus par référence au rap américain. Donc, dans ces conditions, je sais pas.
On n'est pas avancé, François.
Ouais. Ces gens du rap américain qui. Tu vois, enfin, je sais pas. Mais...
Bah, je dis juste que du coup, ils en font une sorte d'usage un peu musical qui fait que ça tu vois, désamorce la charge du mot. Mais bon.
François, il ne faut pas croire que c'est simple aux États-Unis non plus. Lil Pump, il n'est pas noir, il dit tout le temps nègre.
Il le dit ?
Ah, il le dit tout le temps.
Après, il est latino, donc est-ce
que
ça...
Mais c'est ça, c'est toute débat. La question. Est-ce que les latinos qui...
Les maghrébins sont les latinos de la France.
Oui, c'est vrai. Mais moi, je voyais la question plus simple aux États-Unis. Mais vous avez raison, c'est vrai que même aux States, c'est pas simple. En tout cas, il reste que, voilà, évidemment, le monigueux, c'est un mot super violent, et c'est super irresponsable comme usage qu'ils en font, de l'utiliser comme une forme d'ornement de langage, juste pour parler comme les rappeurs américains. Donc, moi, je me souviens de ce concert de Kendrick Lamar où j'étais à l'Accor Hotel Arena et où toutes les personnes blanches autour de moi criaient nigger, 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 nigger.
Bonne ambiance.
Et j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise. Donc, ouais. Même si, parce qu'il y a des gens qui vont nous répondre oui, mais c'est pas pareil, c'est en anglais.
C'est dans la chanson.
Et puis c'est un débat ricain et tout, c'est un débat très américain, mais ici ça a pas de raison d'être. Ben, j'en suis pas sûr. Moi, je pense que c'est un débat quand même qui est assez ambigu, mais assez légitime. Donc, je décerne un iconique à retardement, du coup, avec 3 ans de retard à Joe. Pour avoir
posé
mis ce débat, voilà, poser la question en France.
Alors, la chanteuse Taylor Swift est de retour. Je ne sais pas si vous êtes au courant.
Youpi !
Je suis absolument pas au courant.
C'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, hein, quand même. Hein. La semaine dernière, elle a donné une performance de sa nouvelle chanson au Billboard Awards à Las Vegas. Sa nouvelle chanson, donc, c'est sobrement intitulée Me. Point d'exclamation. Et c'était Trachanostromique.
Trachanostromique.
Voilà, j'ai inventé ce mot pour l'occasion. Pour commencer, son intro, c'était ça.
Ça me rappelle quelque chose.
Est-ce qu'on a déjà entendu ça quelque part ? Bon, oui, donc ça vous rappelle peut-être quelque chose, effectivement. En tout cas, Internet, ça lui a rappelé quelque chose parce qu'il s'est levé comme un seul homme sur les réseaux sociaux pour dénoncer ce pillage culturel donc de Beyoncé avec son concert Homecoming qui est sur Netflix. Donc c'est un peu le concert événement hein, de 2018 et jusqu'à aujourd'hui. Hein, Beyoncé à Coachella qui a fait ce concert. Donc pour mémoire, ça donnait ça l'introduction.
Ça, c'est le concert de Taylor Swift, donc.
Non, ça, c'est Beyoncé. Je sais. Mais alors, on peut épiloguer, on peut dire oui, mais Beyoncé, c'est pas la première à avoir utilisé fanfare dans ses concerts. Alors oui, c'est vrai, c'est ni la première ni la dernière, mais c'est bien certainement la plus iconique. Donc, je vais essayer de me calmer, attendez. Donc moi, personnellement, j'ai vu Homecoming 5 fois. Et donc, je suis même capable de vous dire que les batteurs, ils avaient une chorégraphie pour... ils faisaient tourner leurs baguettes, le mec qui avait du triangle, il jouait sous sa jambe. Enfin voilà, tout le monde avait une chorégraphie, c'était pensé. Le concert de Beyoncé, c'était vraiment pensé autour d'un concept, le concept des universités afro-américaines, de la culture du swag, la culture de la danse associée aux événements musicaux et sportifs.
Ah, le stepping, tout ça.
Voilà, donc Taylor Swift, elle a vu ça. Elle n'a pas moufté un mot d'hommage ou d'admiration à Beyoncé ou Homecoming depuis un an, on n'a rien vu. Du coup, elle a juste lifté le concept et elle l'a réutilisé pour l'intro de sa performance. Donc, c'est pas beau, c'est pas bien. Et comme on m'a dit sur Twitter, c'est pas assaisonné en plus. Donc, du coup, ça a donné forcément le hashtag Mayochella, du nom du festival Coachella, qui avait été transformé en Beachella pour Beyoncé. Là, c'est devenu Mayochella pour Taylor Swift.
Et puis même, souvent, les Américains, les Noirs Américains parlent de mayonnaise pour parler des
blancs, voilà. Oui, oui. Ou de pain aussi. Ils aiment bien Wonder Bread.
Ah, je connaissais pas ça.
Du coup, pour Taylor Swift, Mayochella, c'était au final une stratégie pour faire parler de sa performance, parce que en vrai, les performances live de Taylor Swift, ça a jamais vraiment été son fort, quoi. On peut lui reconnaître certains. Peuvent lui reconnaître un talent de parolière, mais on peut aussi se regarder dans les yeux et se dire que Taylor Swift, c'est le struggle niveau voix et niveau chorégraphie en
niveau
live.
Niveau charisme.
et je suis à peu près sûr que c'est pas elle qui écrit ses paroles comme toutes les chanteuses.
Si. Elle est singer-songwriter. C'est comme ça qu'elle a commencé.
Pas mal.
C'est comme
ça
qu'elle a percé.
Ah, je lui reconnais ça, c'est bien.
Donc c'est bien. Voilà, donc c'est à peu près le truc qu'on peut lui reconnaître, mais après en live et tout, la meuf, elle a pas le range, d'accord, quoi, elle est pas au niveau. Donc du coup, utiliser l'ouverture qui est quand même iconique, récente, de la plus grande performeuse de notre génération à des fins mercantiles de promotion, pour moi, c'est un vrai retour aux sources de Taylor Swift, en fait, qui s'y connaît en appropriation culturelle, puisque je peux vous citer quelques exemples que j'ai recensés. La fois où elle s'est moquée du twerk dans le clip de Shake It Off.
Ah oui, oui.
La fois où elle a touché les cheveux de The Weeknd en lui disant « Ouh là là, c'est bizarre !» Et la fois où elle a fait un clip horrible qui s'appelle « Wildest Dream » où elle joue sans complexe un rôle de colon dans une Afrique fantasmée où les Noirs ont complètement disparu.
D'accord.
Donc voilà, bref, à une époque où tout était plus simple, en 2009, Kanye il avait essayé de nous prévenir. Hein, François, on est avec toi cette fois.
Je suis content que pour une fois vous reconnaissiez la clairvoyance du mec.
Il a essayé de nous faire réaliser que Taylor en voulait à l'héritage de Beyoncé. Donc il était monté sur scène et il avait même grillé sa crédibilité auprès de Barack Obama pour l'occasion, quoi.
Il a bien fait, il took the bullet.
Alors là, on est 10 ans plus tard, on sait que personne ne va rien dire. On est toujours dans la timeline où Taylor Swift a 2 albums de l'année aux Grammys et Beyoncé en a 0. Ma seule consolation, c'est que la chanson Me, du coup, n'est pas numéro 1 au Billboard. Et vous savez pourquoi ? Pour ça. Donc, notre ami Lil Nas X, hein, son hit Old Town Road, numéro 1 depuis 5 semaines, donc bim, don. Taylor Swift. Donc je décerne donc un trash à Taylor Colonizer Swift qui nous fatigue déjà avant même que son album soit sorti. Tu seras jamais Beyoncé, chérie, fais tes valises et rentre chez les rednecks.
Cette semaine, en trash ou iconique des réseaux, on vous a demandé votre avis sur une publicité.
Avec elle, we can escape to the north. There's a place we can be together across the border. Will you leave with me?
Uncover the lost chapters of your family history with Ancestry. Get started for free at Ancestry.ca.
Ce que vous venez d'entendre, c'est une publicité du site de test ADN Ancestry.com qui présente un couple mixte à l'époque de l'esclavage. L'homme blanc propose à son amante noire de fuir vers le nord. Le spot est accusé de romancer l'esclavage. On vous a demandé ce que vous en pensez. 3 options. Je ne comprends pas. Avec un petit emoji main en l'air.
Shrug emoji,
exactement. Deuxième, bah, le pouce en l'air, pourquoi pas. Et le troisième, pouce vers le bas. Le respect est mort. Pour les résultats du sondage, on a eu beaucoup de votes, 200 votes en quelques heures. Je ne comprends pas, 9%. Pourquoi pas, 5%. Et un massif, le respect est mort à 86%.
Moi, j'ai envie de savoir ce que pensent les gens qui ont voté pour
ouais,
pourquoi pas.
Alors moi, il y a Afrodox qui m'a tué. en mettant, en tweetant « Sounds like a choice » et en prenant un gif extrait du clip de Childish Gambino où il y a Kanye West qui se fait, qui a une casquette MAGA,
Make America Great Again, qui se fait étreindre,
et qui se fait étreindre par Michelle Obama. Donc je trouvais que c'était très drôle. Et il y avait aussi Clémence.
Oui, Keyhole and Snapshots.
Ouais, qu'est-ce qu'elle disait ?
Qui nous a répondu « Show us who they're running from, montrez-nous qui ils sont en train de fuir ».
Pour rappel, la publicité a été mal reçue aux États-Unis et au Canada, où elle a été depuis supprimée. On les a accusés de rendre l'esclavage assez glamour. François et Mélanie, vous avez des avis ?
Moi, j'ai beaucoup aimé les mèmes et les parodies qui ont découlé de cette publicité, parce que du coup, Ancestry s'est excusé, mais entre-temps, il y a eu plusieurs mèmes assez marrants, dont un avec Rosa Parks qui arrive dans le bus et qui dit « Je peux m'asseoir ?» Le mec blanc lui dit « Non !» Et elle dit « Bah pourquoi ?» Parce que tu as déjà une place dans mon cœur. Ah, je trouve ça génial.
C'est
voilà.
Moi, ce qui m'a fait triper, c'est que le spot... Vous vous souvenez de la parodie de Green Book par les deux comiques américains, Desus et Mero, qui était en gros l'espèce d'amitié interraciale ultra rose et ultra naïve, etc. Et ce qui est drôle, c'est que cette pub, c'est exactement la même chose, sauf que c'est du premier degré. Et ça, c'est génial. Ce niveau d'inconscience est assez ouf, surtout le Canada quand même, parce que c'est Ancestry.ca, la pub, donc c'est la section canadienne d'Ancestry.com, mais le Canada, comme les États-Unis,
ils ont quand même une grosse histoire de colonisation.
Ouais, voilà.
Ouais, donc, après, c'est vrai qu'il y avait aussi des Noirs qui partaient, à l'époque des esclavages, qui allaient vers...
les Canadiens, ils se pensent mieux que...
Non,
non, mais je sais.
Est-ce que c'est le meilleur endroit pour faire une comédie romantique ? Je ne sais pas.
Non, mais des bars. 12 Years a Slave, with love.
Moi, ça m'a fait penser à deux choses. La première, c'est un sketch pour Ancestry.com, de Key & Peele, où justement, il y a cette histoire de Thomas Jefferson, ancien président des États-Unis, qui a eu une histoire avec Sally Hemings, son esclave, qui est devenue sa concubine, et lui a fait des enfants. Et en fait, toute l'histoire, tout le sketch...
Le racisme a été résolu.
Ouais. Tout le sketch autour du fait que tous les noirs de la pub disent « Comment c'est ? J'ai retrouvé Thomas Jefferson, quoi. » Et donc, Thomas Jefferson... Et c'est devenu une sorte de sketch comme ça. Il y a un truc du SNL où De Niro, pareil, joue un négrophile, et c'est Thomas Jefferson. Et ça m'a fait penser... Un deuxième truc aussi, c'est les Américains qui deviennent un peu fous avec les tests ADN. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques mois, Elizabeth Warren, candidate à la primaire démocrate.
Qui a été tauntée par Trump.
Mais oui, mais elle s'est ridiculisée parce qu'elle a fait un test ADN de ce type-là et qu'elle avait genre 0,5% de sang amérindien. Enfin bref. Moi, je suis nul en sciences, donc j'y connais rien, donc ne m'écoutez pas. Mais il me semble en plus que tous ces trucs-là ne sont pas très scientifiques, que ça ne tient pas debout, que c'est beaucoup plus complexe que ça.
Et c'est surtout aussi utilisé par le FBI derrière.
Il y a plein de trucs très sombres derrière tout ça. Moi, j'ai envie de vous répondre qu'en vrai, comme on dirait en Bretagne, il n'y a qu'une seule race, c'est celle qu'on se met. La semaine dernière, sur Prime Video, est sorti The Upside. Le vrai titre français, c'est Sous un autre jour.
Oui, c'est vrai.
Oh, c'est nul.
C'est le titre québécois, je pense.
Il s'agit donc de l'adaptation US d'un carton français.
He was rich as Jay-Z?
No, richer.
Which car is yours?
All of these to the right.
Oh my God.
They're not practical.
Exactly. You can have any girl you want.
What about this lady with all the Botox?
It'll be perfect for each other. You can't move your body, she can't move her face.
J'ai déjà des trucs à dire sur... Mais on en reviendra, mais sur l'usage d'Aretha Franklin. Bref, mais vas-y, Kev.
Je pense que c'est pertinent de parler de ce film, parce que c'est assez rare que ça se fasse dans ce sens-là, de l'adaptation des États-Unis par la France. Il y a des précédents,
évidemment. Il y a des exemples, ça existe.
Mais c'est encore plus rare que ce soit sur des questions d'identité. Le personnage principal est donc un homme noir. Ça entérine le fait qu'il est des Noirs en France, bon sang.
Tout à fait.
Donc c'est dans le cahier des charges, on peut en parler. Donc j'ai revu Intouchable pour l'occasion. J'ai trouvé que ça n'a pas très bien vieilli. Toi, François, tu ne l'avais jamais vu, Intouchable.
Non, j'avais jamais vu
Intouchable. Tu as joué le jeu, donc tu as vu la version française Intouchable. En deux mots, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Review.
Franchement, j'ai préparé l'émission, donc je me suis posé dans mon canapé et j'ai maté les deux à la suite, vraiment. Donc bon, déjà, c'est assez pénible et redondant, forcément, de mater deux fois le même film, parce que le remake est relativement, enfin même très fidèle à l'original. Et puis sinon, j'avais vraiment l'impression de perdre des points de QI en temps réel.
Sur Intouchable ou sur
les deux, franchement. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Oui, je pense un peu la même chose que toi, que c'est un film qui a pas très bien veillé sur certains aspects, on va dire, politiques, il faut le dire, tout simplement.
Toi, Mel, tu l'as vu récemment ou pas, hein,
Ouais, je l'ai revu récemment. Je l'ai revu il y a 2 ans. Quand c'est sorti, je l'ai vu en avant-première avec Omar Sy dans la salle.
Ok.
Tu pouvais pas lancer de tomates sur l'écran, du coup.
Eh ben non, mais moi, j'avais aimé, en fait. Moi, j'avais aimé parce que je voyais ça comme un acteur principal noir en France, quoi. Et ça, juste ça, moi, ça m'avait, à l'époque, je m'étais dit « waouh ».
C'est une étape.
Et je me rappelle, tu vois, j'étais allée le voir à la fin de la séance et je lui avais dit « ouais, j'ai aimé le film, je pense que ça serait bien si vous continuez à faire des films où vous êtes le personnage principal en France, on en a vraiment besoin ». Donc déjà, il y avait quand même le...
Et il t'a écouté.
Le root.
Il t'a fait « ok, Mélanie, je vais prendre des rôles principaux maintenant ».
Ce que tu dis, ouais.
Mais ouais, non, franchement, moi, je trouve que bon, le film est problématique, ça, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il y a certaines vannes qui marchent, quoi.
C'est faux.
Moi, je trouve que le moment où ils sont à l'opéra, ça marche, je rigole. Le moment, enfin, il y a plein de moments où vraiment je rigole. Après, politiquement et même socialement, il y a des trucs qui sont pas tenables et qui sont de toute façon maintenant mis en lumière à travers les autres rôles que Omar Sy il a eu. Enfin, à chaque fois c'est la même chose. À chaque fois il y a des trucs récurrents sur le Magical Negro, sur le fait que voilà.
On y arrive un petit peu après. Voilà. Moi, ce que je voulais d'abord dire avant qu'on passe directement à The Upside, c'est que justement en faisant un petit peu 2-3 recherches sur Intouchable, l'original. Je m'en étais pas rendu compte, mais en fait c'est vraiment le film de tous les records, donc film réalisé en 2011 par Olivier Nakache et Eric Toledano, meilleur Oscar, enfin César du meilleur acteur pour Omar Sy,
premier homme noir à avoir un César,
19 490 688 entrées en salle en France, seuls Les Ch'tis et Titanic ont fait mieux. Intouchable détient le record du film le plus rémunérateur de tous les temps tourné dans une autre langue que l'anglais, avec 445 millions de dollars.
Oh putain.
C'est également le film français le plus vu en Europe de l'Ouest au XXIe siècle. Voilà. C'est tout ça. En même temps, dès lors, le film a droit à son remake américain, avec Bryan Cranston.
Produit par notre ami.
On y arrive aussi. Bryan Cranston, Nicole Kidman et surtout Kevin Hart. Kevin Hart, il est très sous-coté de ce côté de l'Atlantique, alors qu'il est énorme aux États-Unis. C'est un personnage controversé. On a déjà parlé de ses sorties de route, de ses frasques conjugales, de ses tweets problématiques, homophobes. Et en plus, le film n'a enfin, a failli ne jamais voir le jour. Justement, tu parlais de qui produit le film. Le film a été tourné en 2017 et il a été repoussé pendant 16 mois parce que c'était une production Harvey Weinstein. Donc du coup, il a fallu attendre.
Ils ont aussi distribué Intouchable français.
Exactement, mais ça c'était pour le coup en 2012.
Oui. Bien sûr.
À l'époque où, comme le titrait Télérama, Harvey Weinstein, producteur Intouchable.
Et d'ailleurs, Intouchable s'était fait défoncer aux États-Unis quand
aussi,
il avait été.
Aussi, éviscéré. Du coup, la boîte de prod a été revendue. Le film est sorti en janvier 2019. Mm-hmm. Et donc la sortie a été compliquée. On a reproché directement. Au film d'avoir choisi un acteur valide, Bryan Cranston, pour jouer le rôle de Philippe, et ne pas avoir pris un acteur en situation de handicap. Donc il y a beaucoup de discussions autour de ça. Et puis malgré des critiques mitigées, le succès commercial est au rendez-vous, le film a fait plutôt un bon démarrage, 20 millions de dollars le premier week-end, a été en tête en janvier aux États-Unis en détrônant Aquaman à Hollywood. Et j'ai pas tellement envie de parler de la qualité du film.
Je croyais que ça avait floppé, en fait.
Pas du tout. Non, le film, il a pas rapporté autant que l'original, mais il a fait 120 millions de dollars.
C'est pas dégueulasse.
C'était quoi le budget du film ?
Je sais pas.
35 millions,
mais,
un truc comme
mais,
ça.
Mais voilà, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas... voilà. Pas trop envie de parler de la qualité du film, mais plutôt des différentes adaptations. Donc du coup, on peut y aller.
On peut dire quand même que c'est nul ou pas ?
Oui, tu peux le dire, Mélanie, même si... me demande si c'est pas mieux qu'Intouchable. Bref.
Moi, j'ai préféré Intouchable, je pense.
J'ai pari une seule fois à The Upside.
L'adaptation est très fidèle. Pour rappel, donc, c'est l'histoire d'un homme blanc riche, tétraplégique, qui recrute un auxiliaire de vie noir et défavorisé. Les deux se lient d'amitié et on suit leurs aventures. Il y a de petites adaptations et de grosses modifications d'elle. Donc le personnage principal, le nouveau Driss, sort de prison, il a un agent de probation. C'est le thème récurrent de l'incarcération de masse des hommes noirs. Le héros est en prison avec son père, enfin bref.
Alors que Marcy, c'était juste un mec...
Pôle emploi qu'il faisait.
Ouais, voilà, il voulait juste toucher ses assédiques, quoi.
Voilà. Désormais, il a un fils aussi, dans cette version. Il se fait mettre à la porte par sa compagne et plus par sa mère, comme dans la version originale. Il va tout faire pour renouer avec sa famille afin d'éviter de reproduire les mêmes erreurs du passé,
etc.
Les deux, en fait, Driss le français et Del l'américain sont tous les deux dans la Hesse. C'est montré différemment. Par exemple, dans la version française, Omar est Hachi Il a la peau cendrée. Vous savez, il met pas de crème Nivea et il y a des moments,
oui,
ça se voit un peu.
C'est vrai.
Dans la version américaine, c'est pas ça, parce que ça passerait pas, je pense. Dans la version américaine, Dale, donc Kevin Hart, a pas les contours.
Oui, c'est vrai.
Il fait très négligé, etc. Ah, et donc, c'est oui, un peu, c'est pour moi, c'est comme
qu'il
ça qu'il s'imbolise.
Il est mal rasé.
Voilà. Ouais. Habillé de façon hyper. Presque ascétique, enfin assez sobre.
Ouais.
François, tu avais des choses à dire sur la représentation du cool. Parce que du coup, Driss, à la base, ça représente le cool dans la version française. Et Dale, il représente le cool dans la version américaine parce qu'il est noir.
Ouais, en fait, ben le, évidemment, la logique, la dynamique de cette comédie, c'est de faire une comédie par, vous savez, un peu comme L'Arme fatale ou ce genre de truc, par opposition, en fait, par contraste. Ouais, voilà, c'est une forme de buddy movie avec le personnage donc blanc, riche et élevé socialement, et au contraire, et puis très coincé. Et puis en face, ben, le personnage noir qui a pas beaucoup d'argent et qui a pas beaucoup de manières, qui est pas très cultivé, mais qui a une forme de spontanéité,
sagesse
de
populaire.
Du coup, voilà, ouais, elle se pose et s'attire, tout ça, voilà. C'est génial. Et donc en fait, que ce soit Dale l'américain du coup ou Driss le français, le personnage noir devient la caution cool du personnage blanc. Donc ça, évidemment, on est d'accord, bon, c'est problématique, politiquement c'est problématique, tout ce que vous voulez.
Un des rares contre-exemples, c'est L'Arme fatale, où t'as le personnage de Danny Glover,
qui est
le
vieux coincé,
qui veut être à la retraite et qui en a marre et tout, et t'as Mel Gibson qui est le jeune tête brûlée qui veut tout le temps partir.
Donc les films de Mel Gibson sont donc progressistes et...
Non,
on n'ira pas jusque là.
Parce que dans tous les cas,
des inversions.
C'est vrai, mais dans tous les cas, ça joue sur ce contraste. Et regarde Green Book, c'est la même chose.
Ouais,
c'est Mahershala Ali qui est coincé. Ce qui m'a gêné en fait, c'est que justement cette place du cool, pour moi, elle doit être incarnée par le hip-hop. Et pour moi, le grand absent des deux films, et plus étonnamment dans le film américain, c'est le hip-hop. C'est-à-dire que en France, dans la version française, on a donc cet Omar Sy qui est là, qui est super spontané et qui, au lieu de qui remplace la musique, vous savez, classique de Philippe par de Cool and the Gang et de la funk.
Earth, Wind & Fire.
Et Earth, Wind & Fire. Et en gros, il leur dit voilà, mais regarde ça, c'est de la vraie musique, etc. Et donc, en gros, ça joue sur le contraste. En France, on a peur du rap.
Ouais, je pense que s'il avait lancé Booba à l'anniversaire de Philippe.
Booba ou même Ayam, Je danse le Mia, tu vois, c'est plutôt cool, c'est plutôt rassembleur. Mais je sais qu'en France, on a peur du rap et je m'attendais pas à ce qu'on entende du rap. Pourtant, ça aurait été beaucoup plus réaliste qu'un mec de cet âge-là, en 2011, écoute du rap. On est d'accord?
Oui.
Voilà. Donc, que la France ait eu peur de ça, ça m'étonne pas. Ce qui m'étonne plus, c'est que aux US, donc, qui est quand même la terre-mère du hip-hop.
Ils ont un gros marché, je crois, là-bas.
Ils ont un bon marché. Tu sais, c'est la terre-mère. Tu sais, le cool qu'on attribue aux noirs, aux blacks. le slang, vous savez, l'attitude, etc., la forme de nonchalance, le rire, le swag aussi. Tout ça, ça vient de là-bas. Ça vient du hip-hop et ça vient des States. Donc, je m'attendais à ce que les States soient beaucoup moins. Soient beaucoup moins timide avec ça, et pourtant
mais pour moi le truc, c'est que les deux, ils sont pas swaggés en fait.
Mais justement, c'est ça que je dis en fait, c'est que même aux States, c'est là où je suis étonné, ils ont conservé une blackness très très lisse pour le personnage noir et très peu clivante. Donc pour le personnage de Kevin Hart, il écoute pas NWA, hein, il écoute Aretha Franklin. Donc voilà, un mec de cet âge-là.
Et ils en font des caisses.
Le funk de Omar Sy au final.
Ouais, d'accord, mais comme. Avec la translation vers les US, je m'attendais à un truc beaucoup plus frontal.
Je pense que si Omar Sy avait écouté, enfin si Driss avait écouté du hip-hop, peut-être que Dale aurait écouté du hip-hop. Je sais pas.
Moi, j'aurais voulu que les States se disent putain, mais c'est un personnage noir qui va opposer son swag au personnage blanc. Il faut qu'il écoute du hip-hop. Et c'est pour ça que je suis déçu en fait. C'est parce qu'en fait, je trouve que le film, au-delà du côté politique, ouais et tout, il faut pas qu'il soit la caution cool, etc. Ça, on est d'accord. Mais au-delà de ça,
faites la caution. Si c'est une caution, faites une bonne caution.
Exactement. Ouais. Je trouve que le film, il se prive d'un bon ressort comique qui aurait très bien marché. Vous savez, le contraste avec le code switching. Il y a plein de comédies américaines qui jouent là-dessus. On en a parlé. L'Arme fatale, bien sûr, même si c'est plutôt un buddy movie policier. Le film dont je vous parlais là, vous savez, Step Sisters.
Ouais.
Avec
la noire qui enseigne aux blanches.
Ou le mec blanc de l'héroïne noire qui parle, qui dit on flic aux parents noirs. Sauf que les parents, en fait, comme c'est des bourgeois, ils comprennent pas, ils font who's flic. Ouais. Tu sais, des trucs comme ça.
Ouais, ou même Eddie Murphy dans Flic de Beverly Hills.
Voilà.
Quand il change de sa manière de parler quand il va à l'hôtel.
Exactement. Les Américains ont l'habitude de jouer sur cette dichotomie et sur ce cool noir contre des blancs un peu coincés. C'est une corde comique ultra éculée, usée vraiment mille fois, mais ça marche. Ça mange pas de pain et ça marche. Et donc j'ai été déçu que The Upside importe la pudeur raciale en fait. Que vous savez, des intouchables, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez.
Alors moi je suis d'accord, mais je pense pas que ce soit le plus gros changement. majeur. Ça, pour moi, ça, c'est des petits trucs d'adaptation, de choix. J'aurais pas fait comme si
oui,
j'aurais
ça
fait comme
ça. Ça aurait fait un film drôle, en fait. Sauf que le film n'est pas drôle.
Mais plus dans le fond, je pense que moi, ce qui m'a plus marqué, c'est comment le personnage a été changé, pas sur les détails, mais plus sur le fond. Par exemple, un détail, c'est que c'est un entrepreneur, enfin un entrepreneur. Parce que justement, c'est un Américain et qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de questions autour de l'entrepreneuriat noir, le black dollar, des choses comme ça. Et donc, lui, il insiste beaucoup plus sur le matériel. C'est un ancien arnaqueur, d'ailleurs. Il est beaucoup plus concret aussi sur l'argent. Dans le film, on voit qu'il est très bien payé. On voit d'ailleurs combien il est payé. On lui donne un chèque, on voit le montant du chèque.
Oui, 2000 dollars par semaine.
Ouais, 2682 dollars par semaine. Pendant tout le film, ils réfléchissent à comment... ils cherchent une idée pour monter une start-up, faire un gros coup, faire de l'argent. À la fin, il crée une boîte de fauteuils roulants, un truc concret qu'il peut faire avec ses mains, pourquoi pas. Et puis il y a aussi, pour moi, quand tu parlais de cette pudeur qu'on a enlevée dans la version américaine, il y a la façon dont on va gérer la blackness, ou dont on va en parler, qui a été pour moi très problématique dans Intouchables. Moi, quand j'ai revu le film, quand je l'ai vu la première fois et quand je l'ai revu aussi, il y a quelque chose qui m'a vraiment mis très mal à l'aise dans la version originale. C'est le moment à l'anniversaire de Philippe où donc Driss met un costume pour la première fois, ouais, et il s'assied à côté d'une blanche qui lui dit « tu ressembles à Barack Obama ». Et dans ma tête, je me disais, mais comment ils vont gérer ça dans la version américaine?
Bah,
ils l'ont enlevé, quoi. Et ils ont tout à fait raison.
Il y a un critique américain qui s'appelle Jay Weisberg, ouais. Weisberg, qui a écrit pour Variety, ok, qui Variety. A détesté Variety, qui a détesté donc Intouchables, ouais, qui dit que le rôle de Marcy, je cite, se détache à peine de l'esclavage et que, je cite encore, il divertit le maître blanc tout au long du film,
ouais, avec un Magical Negro,
bien sûr, et qui mentionne notamment la blague sur Obama. Il est énervé de ouf.
On va arriver à la question de son rapport aux femmes, mais avant ça, il y avait un truc que je voulais dire. Il y avait aussi une chose que j'avais trouvé plus intéressante dans la version américaine, c'est que j'ai l'impression que le personnage de Del apprend et est beaucoup plus ambitieux que le personnage de Driss. C'est-à-dire que Driss, il va à l'opéra, il rigole, il a une crise de... il a un fou rire parce que le mec chante en allemand. Dans la version américaine,
il a une fou rire parce que c'est un arbre. Oui, à la fin, il apprend à aimer le...
Alors que dans la version américaine, il apprend à aimer l'opéra. Il y a plein de petits trucs comme ça où tu sens que le gars a une certaine progression, qu'il a des ambitions, qu'il veut arriver à accomplir des choses. Driss se laisse vraiment porter. Et puis, si jamais il gagne de l'argent, il est content. Alors que, par exemple, dès qu'il vend son premier tableau, Dell, il veut absolument s'y remettre, en refaire d'autres, etc. Enfin, il a un rapport différent à ça. Sur l'écriture des personnages féminins, il y a eu des fusions.
Il y a eu des fusions, il y a eu des acquisitions. Non, je sais pas, mais ouais, clairement, bah, le personnage qui est interprété par Audrey Fleurot dans la VF, j'ai oublié son prénom,
c'est
qui allait interpréter
Yvonne
par
Yvonne ou Magali.
Yvonne, je sais plus.
C'est Magali.
Et Yvonne dans la VO. Du coup,
dans la version française, il y a deux personnages. Il y a Magali et Yvonne, et dans la version américaine, il y a juste Yvonne.
Et c'est Nicole Kidman.
Ouais,
tout à fait.
Et effectivement, en fait, ce personnage de femme. En fait, moi, déjà, il y avait un problème dans les femmes d'Intouchables. T'avais donc ce personnage de Audrey Fleurot qui était hyper attentive, hyper qui représentait un peu le côté maternel que Driss essayait de séduire à tout prix. Pendant tout le film, c'est d'ailleurs elle qui lui dit « tu ressembles à Obama avec un costard ».
Exactement, ouais.
Et donc, il y a ça, il y a ce côté-là. Et puis sinon, les seules autres femmes qu'il y a, c'est les masseuses que Driss invite à la maison pour masser en fumant, quoi. Ouais. Donc, déjà, en termes de représentation, on est vraiment dans le côté la mère et la pute, quoi. En gros, il n'y a rien entre les deux.
Le film ne passe pas le test de Bechdel.
Non, bien sûr que non. On rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est deux femmes qui ont un prénom et qui parlent d'autre chose que d'un homme. Non, bien sûr que non. Mais en plus de ça, c'est vraiment soit la sexualité, soit la maternité, le care, quoi. Et là, dans le film américain, ils ont fait une espèce de fusion, comme tu dis, où en gros, Yvonne devient à la fois... la maman de Philippe aussi,
oui,
il s'appelle.
Philippe,
elle a aussi ce côté maman. Par contre, là, Del n'est pas du tout attiré par elle. Il est juste, voilà. Et à la fin, le film fait que, en fait, je spoil pas, mais bon, en gros.
Tu peux spoiler, hein. C'est pas Game of Thrones, c'est pas Avengers.
Désolé pour ceux qui voulaient pas être spoilés.
On va vous spoiler Intouchables, les gens, en 2019.
Mais bon, en gros, là, Nicole Kidman finit avec le personnage de Philippe. Et tu te dis, mais what? Enfin, sachant que c'est intéressant parce que dans l'original, Philippe, il a une correspondance avec une fille, et il la rencontre, et c'est comme ça que le film se termine. Et on te dit, dans la vraie vie, c'est comme ça que ça s'est passé.
Là, ça marche pas.
Là, ça marche pas.
Là, il la rencontre et la meuf est pas cool. cool.
C'est Juliana Margulies, cool.
The Good Wife.
The Good Wife,
urgence.
Qui lui dit désolé, mais en fait, t'es dans un fauteuil. Enfin, y a vraiment...
ça a donné lieu à une scène, je trouve, très, très nuancée et très bien écrite sur le handicap qui n'était pas, pas dans le film français.
Oui, qui abordait frontalement l'aspect, en fait, comment on fait, tu vois, je trouve que ça, pour être en couple quand on est handicapé.
Cet aspect-là, à part François Cluzet qui stresse de voir sa correspondante parce qu'il a peur de sa réaction lorsqu'elle découvre qu'elle est en fauteuil, à part ces quelques répliques-là, on ne parle pas vraiment de handicap dans le film. Alors que
la version américaine, il y a ça, effectivement, dès le début, on parle de DNR, Do Not Resuscitate. Si jamais j'ai une crise, pas d'acharnement thérapeutique, tout ça.
En fait, je voulais juste dire que pour moi, dans l'un comme dans l'autre, les femmes sont absentes, en fait, sont des caricatures, ne sont là que pour gérer le quotidien et la bouffe et le c'est insupportable, quoi. Et voilà, et du coup, il n'y a pas grand chose à en dire. Hein. Et ça, c'est pas quelque chose que la version américaine a amélioré.
Eh ben, tu sais quoi, j'avais pas vu tout ça, mais peut-être que j'ai des biais. Mais sur les rapports de genre, il y a un truc, moi, qui m'a marqué dans l'adaptation américaine, c'est qu'il est beaucoup moins frontal, beaucoup moins brutal sur la question. Sur son rapport aux femmes, il ne s'adresse pas du tout pareil à Yvonne dans la version américaine. Il appelle pas ma petite motivation.
Mais parce qu'en fait, dans la version américaine, il est avec sa femme, en fait.
Non, mais c'est pas que ça. Je pense qu'il y a aussi la question de la distance par rapport à la femme blanche et que le mec peut pas arriver chez un grand milliardaire américain et parler à son assistante en lui parlant comme il parle au personnage. C'est vraiment très chaud. C'est à la limite du harcèlement. Il essaye de l'embrasser.
Ouais, il l'embrasse par surprise.
À la fin, elle dit je suis gay. C'est pour ça que tu voulais pas
salut les mecs quoi, ciao les mecs, parce que t'es lesbienne, vas-y.
Mais non, mais moi je voulais dire, je suis désolée, je vais crucifier Kevin Hart, mais je sais que tu l'aimes, donc ne prends pas ça personnellement.
Vas-y.
Mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment en fait, je pense que si Intouchable m'a touché c'est vraiment à cause d'Omar Sy. J'ai trouvé que le mec, il avait un sens du timing, qu'il arrivait à faire passer des émotions. J'ai trouvé que le courant entre lui et Cluzet passait. Et donc ça, c'est quand t'as vraiment cette relation entre les deux qui marche bien, même si le film est hyper problématique, en fait, émotionnellement, t'arrives à être pris. Là, moi, j'ai trouvé déjà que Kevin Hart était... Je l'ai trouvé fermé, en fait.
Mais je vais pas aller contre toi, parce que déjà, je pense que pour Omar Sy, ça a été un film tournant.
Ouais.
Dans sa carrière, il y a clairement un avant et un après Intouchable. Alors que pour Kevin Hart, pas du tout. C'est pas du tout son plus grand succès. Ça aurait pu, si ça avait été, je sais pas, dans un autre contexte, le film prend, ça aurait été un immense succès, il aurait eu une nomination aux Oscars, j'aurais dit, ok, on peut en parler. Là, le film, il est noyé dans.
Mais tu vois, je me dis, à la limite, si t'as au centre, t'as une performance qui fait que tu peux t'attacher au truc, pourquoi pas. Mais là, j'ai trouvé que Kevin Hart, en fait, c'était un mur. Et que, par exemple, la relation qu'il a avec Bryan Cranston, je n'y crois pas une seconde. J'ai l'impression que ces mecs ont fait leur film et qu'ils se sont ni parlés ni avant ni après.
Je suis d'accord, c'est beaucoup plus mécanique dans le jeu, dans l'interprétation, c'est moins organique.
Et il a une manière aussi de sortir les vannes qui ne sont pas... après, on ne lui demande pas de faire du Omar Sy, on n'attend pas de la parodie. Mais tu vois, quand il sort des blagues, il rigole pas. Donc en fait, tu ne sais pas si c'est de l'humour. Enfin, moi, personnellement, j'arrivais pas à être du côté de Dell, en fait. Me disais, mais c'est qui ce mec-là qui arrive, qui insulte tout le monde, qui insulte les femmes et tout.
Il est en pilote automatique un peu. Ouais.
C'était un peu... Voilà. Et du coup, si ça ne tient pas... Tout le reste du film, du coup, qui est problématique à la base, s'effondre complètement.
Alors, dernier point, sur la question raciale, c'est quand même beaucoup plus frontal que ne l'est Intouchable. Par exemple, il y a un travail intéressant qui a été fait il y a quelques semaines par Arrêt sur Image, où ils ont fait un épisode qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Cinéma aussi est pavé de bonnes intentions. Où ils reviennent en longueur sur Intouchable et le personnage, non seulement le personnage de Driss, du coup, Omar Sy, est assez brutal, pas seulement avec les femmes, mais il se bat, etc. Il est un peu loubard. Et puis surtout, les blancs ne sont jamais mentionnés dans Intouchable, alors que, évidemment, dans un contexte américain, le personnage de Kevin Hart, Dell, va dire oui, je suis chez les blancs, et les blancs, ils font comme si.
Dans les 5 premières minutes du film, il dit White people got names for everything.
Exactement.
Les blancs ont des noms pour tout, etc.
Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. c'est toujours cette espèce de truc où, en France, les blancs n'existent pas, et c'est les autres, éventuellement, qui existent.
Je peux rajouter un dernier petit truc sur la race dans le film. J'ai lu un article super intéressant d'un site qui s'appelle The Ringer, donc par une journaliste qui s'appelle Manuela Lazic, et qui compare un petit peu l'évolution des comédies en France et aux US. Donc des comédies en France, et puis comment elles sont adaptées aux US, et comment elles évoluent à la fois de manière parallèle, mais aussi en se croisant. Et en gros, ce qu'elle dit, pour résumer, hein, c'est que la force de la France, du moins ce qui constituait la force de la France avant dans ses comédies, c'est de ne pas se soucier du politiquement correct, ouais, en fait, et de faire une sorte de les Français, on a un humour très très caustique, et on va faire des personnages plutôt détestables, plutôt, et des comédies plutôt ironiques, plutôt acides, pour justement se moquer des personnages qui sont à l'écran.
Rest in peace, Anémone,
très bon exemple.
C'était vraiment une bad bitch, Anémone, quoi.
Et donc dans toutes les comédies des années 80-90, comme Le Dîner de cons, Trois hommes et un couffin, La cage aux folles, etc., c'est des comédies qui abordent de manière frontale des sujets très délicats que les Américains n'oseraient peut-être pas aborder de manière aussi frontale et de la même manière, et que les Américains ont essayé ensuite de copier en les adaptant. Par exemple, Dinner for Schmucks avec Steve Carell pour Dîner de cons, qui n'est que l'ombre de la version avec Jacques Villeray.
Ils n'ont pas fait Les Visiteurs aussi? Non.
Ah bon, je savais pas.
Si, il y a Les Visiteurs, mais c'est avec c'est toujours avec Clavier et Renaud, je pense. Mais
c'est des Français qui
habitent en Amérique,
peut-être. Sauf que, écrit Manuela Lazic, le paradigme a changé, en fait, depuis le début des années 2000 et surtout les années 2010. Parce que, avec MeToo notamment, et puis le focus grandissant sur les questions de race,
La diversité,
on se rend compte qu'en fait, ce sont deux sujets avec lesquels la France est beaucoup moins douée. La cage aux folles.
Non,
ou,
c'est
ou
différent. C'est pas pareil. On a nos spécificités.
Tu vois,
on voit pas les couleurs.
Des sujets comme la cage aux folles ou le dîner de cons, bon, voilà, c'était des comédies un peu sur.
Pédale douce,
ouais. Oh, c'est des trucs très sociaux. Il y a un truc où ça va, la France, on est bon. Par contre, un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on s'est fait déchiqueter à l'étranger. On s'est fait déchiqueter dans tous les pays du monde, sauf en Espagne et en Allemagne. Et en France même, ils se sont fait déchiqueter. Et ouais, on se rend compte que la France, du coup, n'est plus du tout le nec plus ultra en termes de comédie. Et c'est aussi pour ça que je suis déçu, du coup, de The Upside. Parce que là, on avait une traduction. La France, qui est un pays totalement ababa, pour utiliser un mot de chez moi, avec les questions de race. Je me disais, ah ouais, c'est bon, les Américains, ils vont faire un truc cool et frontal. Bah, en fait, non, pas du tout, quoi. Donc voilà, je vous mettrai l'article en lien. Il est vraiment très, très cool.
En conclusion, bah, je dirais de plutôt regarder le dernier stand-up de Kevin Hart sur Netflix. Ça s'appelle Irresponsible. C'est sorti,
il fallait qu'on plug Netflix quelque part, quoi.
C'est sorti le mois dernier. Fallait, on est obligé. C'est du bon gros rire gras, mais il a un certain talent comique. Je suis d'accord sur les critiques américaines qui, de toute façon, n'ont pas été bonnes pour The Upside et qui n'avaient déjà pas été bonnes pour l'original d'Intouchable. Tu parlais de variété. Il y a aussi un article du New York Times où, en fait, c'est un journaliste blanc qui dit non, mais en fait, peut-être que pour vous, en France, c'est
pour vous,
cool.
Les rednecks, c'est cool,
peut-être,
mais.
Peut-être que pour vous, mais pour nous, depuis les années 80, Miss Daisy, les trucs comme ça, c'est bon.
On a, ouais, et après, ils vont te pondre Green Book.
Donc. Et après, et c'était. Merci la conclusion, j'allais dire que. Ah, et donc, tu vois, ce genre de petits trucs-là, tu vois, ça coupe, ça blesse, tu fais ah ouais, putain. Et puis en 2019, gros Oscar pour Green Book, qui, en fait, c'est ça la vraie adaptation d'Intouchable. Sauf que, comme c'est un peu la génération d'après, que c'est un peu méta aux États-Unis, ils ont pu prendre la liberté de prendre le personnage de Driss et d'en faire un blanc, en fait. C'est juste ça.
On a chacun notre propre idée, américain et français, on a chacun notre propre idée, finalement, des tabous et de la political correctness, du politiquement correct. C'est assez intéressant.
Je pense que c'est aussi intéressant de souligner que c'est un film qui a été fait par des blancs. Peut-être que si ça avait été repris en main par des afro-américains, on aurait eu un résultat un peu différent, je sais pas.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je trouvais que le personnage de Driss, dans sa blackness, dans l'expression de sa blackness, était très, très dilué. On sait à qui on s'adresse. Donc voilà, moi je trouvais ça en tout cas super intéressant de voir les deux films à la suite et de voir la même histoire, mais racontée des deux côtés de l'Atlantique.
Alors vous le savez, on l'a dit, John Singleton est décédé le 29 avril dernier d'un accident vasculaire cérébral. Alors bien sûr, hein, en France, on ne sait pas qui c'est. Mais du coup, vous écoutez.
Il y a des gens qui savent.
Mais de toute façon, vous écoutez une émission qui sait qui c'est, qui va essayer de lui rendre hommage et qui va essayer de vous expliquer pourquoi John Singleton était si important. Donc, ce qu'il faut savoir de ce monsieur, c'est que c'est un réalisateur scénariste. En 1991, il a 23 ans et son premier film, Boys in the Hood, qu'il a écrit et réalisé, sort au cinéma. Alors ça devient immédiatement culte, à tel point que John sera le plus jeune nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur, mais aussi le premier homme noir. Donc c'est quand même assez dingue. Donc le film, c'est quoi ? Le film s'appelle donc Boys in the Hood, la loi de la rue chez les Québécois. Ah. Et donc ça raconte l'histoire de Trey, qui est un jeune garçon précoce et intelligent qui vit dans le sud de Los Angeles et qui est envoyé en fait dans un l'équivalent d'un collège, donc middle school.
Merci.
Non, en fait, il y a un flashback entre 1984 et 1991, où en gros, tu le vois avec son crew quand il est jeune, et puis après, tu vois ce que le crew est devenu en 1991.
Oui, c'est vrai.
Et donc, en fait, c'est vraiment sur la vie, en fait, dans le ghetto, avec les gangs, sur comment ça se passe. Et au centre, on a ce personnage donc, qui est interprété par Cuba Gooding Jr., de Trey, qui en fait évolue et voilà. Et c'est un personnage qui veut écrire. Enfin voilà, il y a vraiment tout un. Je pense c'est quand même un miroir de John Singleton quelque part aussi. Donc le film, gros succès, lancera la carrière du casting. Donc il y a Cuba Gooding Jr., Ice Cube, Laurence Fishburne, doublé par Med Hondo dans la VF. Oh,
tout à fait.
On souligne. Et Maurice Chestnut aussi. Donc, je sais pas, vous l'avez vu ce film ?
Je l'ai vu il y a longtemps, ouais.
Ouais.
Je l'ai vu il y a pas très longtemps, moi.
Parce que, ouais,
ouais, ouais, mais il était sur Netflix.
Netflix.
Vas-y, merde !
Les deux films dont on va parler, Boys in the Hood et Poetic Justice, étaient sur AfroStream.
Oh.
RIP, petit ange. Ouais, non, je l'ai vu il y a pas très longtemps, en fait, j'ai vu quelques mois, donc c'est vrai qu'il est encore assez frais dans mon esprit. Ouais. Et j'étais surpris par la maturité du propos, en fait.
Ouais. 23 ans.
Ouais, ouais. Je m'attendais à un film. Je m'attendais à un film un peu basé sur l'action et je sais pas comment dire, qui sensationnaliserait entre
plus
guillemets.
Menace to Society.
Voilà, je m'attendais plus à un film comme ça en fait. Mmh. Et en fait, c'est un film avec très peu d'action et beaucoup de ce que je vais appeler beaucoup de réalisme social en fait. Beaucoup
de
réalisme social,
des
tranches de vie. Exactement.
Mmh. Bah, en fait, c'est ça la force de John Singleton et je pense que c'est pour ça qu'en fait il y a une telle émotion avec sa mort, c'est que. Il sait pas, en fait, ces films, c'est pas. Bon, il y a du drame, il y a des meurtres, il y a de la violence et tout. Mais c'est pas ça le propos. Le propos vraiment central pour moi de ces films, c'est que c'est des films qui parlent de la jeunesse et qui parlent de comment on arrive à grandir et à avoir une vie à peu près normale dans le ghetto. Après, le film dont je veux parler, c'est Poetic Justice. Et la portée politique est beaucoup moins présente et beaucoup moins apparente que dans Boys and the Hood. Et c'est aussi pour ça que les critiques ont été dures. Parce qu'ils ont dit, ouais, mais attends, là, il n'y a pas de réalisme social, ils sont où les gangs et tout. Poetic Justice, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un film autour d'une jeune femme noire qui se construit, quoi. Et je trouve, enfin, moi, je suis vraiment fan de ce film. On suit Justice, du coup, qui est interprétée par Janet Jackson. Ouais. Qui est une jeune fille qui est coiffeuse et qui écrit des poèmes en parallèle dans son cahier. Les poèmes, on a l'impression de les connaître, c'est parce qu'en fait, c'est les vrais poèmes de Maya Angelou. Qui a participé au film.
On la voit dedans.
Elle est dans le film. Donc en face d'elle, il y a Tupac Shakur, qui joue le rôle d'un postier un peu au grand cœur. Et donc avec deux de leurs amis, dont Regina King, ils vont partir dans un road trip qui va un peu changer la manière de voir le monde et la manière qu'ils ont de se voir aussi. Et donc le casting de Poetic Justice, lui aussi, est All Stars. Il a vraiment un talent, je pense, pour ça aussi, John Singleton, pour réunir autour de lui ces gens-là. Donc Tupac, Janet, Maya Angelou et Regina King quand elle était jeune. Donc, dans ce film-là, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de marqueurs de la culture noire. Déjà, numéro un, les looks de Janet Jackson qui sont restés dans les annales. On va sur Tumblr, elle est partout, en fait. Donc, vraiment, les braids, le chapeau, le jean taille haute avec la ceinture et le t-shirt près du corps, hein, iconique. Et puis, on peut aussi évoquer la scène du barbecue noir en famille.
Ouais, il y en a aussi dans Boys in the Hood.
Ben là, ils arrivent dans un barbecue. Et les meufs, elles disent, mais attends,
c'est ça,
mais en fait, les meufs disent, mais attends, on les connaît pas et tout. Et là, Tupac dit, mais on est tous noirs, c'est bon. Vas-y, hey, cousin, et tout. Et il va voir les gens. Enfin, il y a vraiment cette culture du cook-out où, en gros, tu vas voir, tu viens manger, tu connais tout le monde, tu parles aux tantes, les tantes te demandent si t'es marié, si t'as une copine, machin. Enfin, il y a vraiment, en fait, ces images, je pense, qui sont ancrées dans la psyché afro-américaine. Enfin, et c'est ça qui est, je pense, important à se rendre compte autour de John Singleton, c'est que non seulement, il a donné une voix à la blackness, c'est-à-dire que voilà, il a casté des acteurs noirs. J'ai remarqué aussi dans Poetic Justice que j'ai revu hier, il y a à part au début où il y a une parodie parce qu'ils sont en train de regarder un film sur un, je sais plus comment ça s'appelle quand tu regardes un film dans ta voiture là, et que
c'est drive-in.
Ouais, voilà. Ouais. Et donc là, il y a des blancs, mais sinon dans tout le film, il y a que des noirs.
Mmh. Ouais, dans Boys in the Hood, c'est pareil aussi.
Et du coup, tu te dis, tu vois, non seulement il donne une voix, mais aussi il donne un visuel. Il te donne des images, en fait, qui vont rester dans la mémoire, en fait, de ce que c'est. Et c'est très bien réalisé, c'est bien filmé, les personnages sont bien éclairés, c'est bien mis en valeur. Alors, j'ai quelques petites anecdotes sur la réception de Poetic Justice que je trouve toujours assez intéressante. Janet Jackson a été récompensée aux Razzie Awards en tant que pire actrice de l'année pour ce film.
Bon. Est-ce qu'elle était bonne ou pas dans le film? Je ne l'ai pas vu, moi.
Moi, je l'ai trouvée correcte. Tu vois, je l'ai trouvé bien. Je ne l'ai pas trouvé incroyable. Je ne sais pas si c'est la performance de sa vie, mais elle est bien. Tu vois, elle ne m'a pas choquée. Je ne me suis pas dit, putain. Et ce qui est intéressant, c'est que par contre, elle a été nommée à l'Oscar pour la chanson qu'elle a fait dans le film.
Mais c'est marrant, ça arrive souvent, ça, ce double truc.
Ouais, et puis, bon, il y a ça. Et puis, il y a cette critique crypto-raciste de Variety, encore eux, à l'époque. Je vous la lis. Tout en essayant de recréer l'ambiance locale, Singleton oublie régulièrement le public qui n'est pas familier avec l'argot coloré. Poetic Justice a beaucoup d'atouts, mais la discipline n'est pas en haut de la liste. Ce défaut sera sûrement un blocage majeur pour atteindre l'universalité, surtout pour le public de l'étranger, en gros.
C'est des Français, quoi, tout ça. Des Français, ça.
What?
C'est pas des Américains, c'est vraiment ça.
C'est quand même ouf, hein.
On a les mêmes, alors.
Oh là là. Ah, quand j'ai lu ça, je me suis dit, putain, les mecs qui te disent, attends, ce portrait d'une communauté n'est pas assez... On n'a pas assez pensé à moi.
Blanchisserie of the world, unite.
Donc c'est justement, moi je pense que les films de Singleton ils continuent à être appréciés, et ils ont ce statut culte justement à cause de ça, parce qu'ils cherchaient pas à montrer les noirs pour les blancs, ils cherchaient à montrer une certaine vision qui était celle de leur réalisateur de l'expérience noire dans un certain milieu.
Il avait aussi une vision super politisée, en fait. C'est ça qui, moi, m'avait... Je sais pas si c'était le cas pour Poetic Justice, mais il y a une scène qui m'a grave marqué. Il y a deux scènes qui m'ont grave marqué, mais je vais parler que de celle-là. Dans Boys in the Hood, c'est le père donc de Trey. Il est agent immobilier, en fait. Et il y a une scène où il est devant un grand panneau, tu sais, de genre terrain à vendre, un truc comme ça. Et en gros, il parle à son fils et il commence à rameuter tous les jeunes du quartier. Il dit venez voir, je vais vous expliquer un truc. Et en fait, il leur explique. T'as toute une scène où Laurence Fishburne fait un speech sur la propriété foncière et ce qu'on appelle la generational wealth, la richesse générationnelle, donc que les Noirs n'ont pas, parce qu'en fait les Noirs
le patrimoine.
Le patrimoine, tout simplement. Ouais. Merci. Qui n'ont pas de père en fils et de génération en génération à cause de l'esclavage, etc., etc. Et en gros, il leur explique que la première chose à faire, c'est de trouver un job viable pour ensuite racheter les terres, racheter les terrains, racheter le patrimoine immobilier pour ensuite reconstruire leur communauté. Et cette scène-là, on n'était pas dans un hood movie classique, quoi. Et j'étais halluciné.
Je pense que dans Poetic Justice, il y a peut-être plus l'accent sur la politique des genres, tu vois, sur les relations entre hommes et femmes. Et d'ailleurs, il y a une scène qui est très connu.
Oh, so you one of them angry bitches, huh? A feminist.
What'd you call me?
Said you a mean bitch.
We gotta stop this right now. You don't know shit about me, okay? Don't be calling me no bitch. You don't know nothing about me.
Here I am acting all courteous and shit, trying to spark up a conversation. Nigga gotta call you a bitch to get
Look,
your I'm attention.
I'm a black woman, okay? I deserve respect. Don't be calling me no bitch.
Hey.
If I'm a bitch, your mama's a bitch.
Donc là, c'est Janet et Tupac qui s'engueulent dans la voiture, qui est une scène vraiment culte, où en gros, il lui dit pourquoi tu parles pas? Elle lui dit j'ai pas envie de parler. Il lui dit t'es une bitch et tout. Elle lui dit don't call me no bitch. et en fait, ça se termine, ils font fuck you. Et elle descend du camion, elle lui dit fuck you. Enfin, c'est... Et en fait, il y a vraiment un travail sur ça, sur. Parce que Janet, dans le film, enfin Justice, c'est un personnage qui perd son petit ami au début du film et qui est assassiné par un gang et tout, et qui n'est pas en fait ouverte à ça, quoi. Donc, et à la fois, c'est vraiment comment Tupac et je les appelle par leur vrai prénom, mais comment Tupac et Janet arrivent à se rejoindre au milieu, en fait. Et lui, il arrive à comprendre aussi certains trucs, et elle arrive à s'ouvrir. Pour moi, c'est ce qui est vraiment bien avec lui, c'est que les films de John Singleton, c'est que c'est pas juste des films sociaux, en fait, c'est des vrais films émotionnels sur comment on se construit, quoi. Et je voulais juste terminer en disant que John Singleton, il a créé une imagerie afro-américaine qui relève presque de la mythologie. On lui doit aussi notamment le clip de Remember the Time de Michael Jackson, ouais. avec Eddie Murphy et Naomi Campbell dans une Égypte pharaonique, qui est quasiment un court-métrage en fait. Ouais. Il a aussi réalisé des épisodes des séries Empire, American Crime Stories. Enfin, vraiment, toujours, il essaye de donner une imagerie qu'on n'avait pas avant aux histoires afro-américaines, quoi. Et il a vraiment, pour moi, zoomé sur la spécificité de l'expérience afro-américaine dans le Oud, et plus particulièrement celle des adolescents dans les années 90. Après, même si les thématiques sont politiques, que, pour moi, il a avant tout fait des teen movies, mais qui ne ressemblent pas à des teen movies, à ce qu'on pense quand on dit le mot teen movie. Pour moi, il a fait des teen movies. Et ce qui compte dans ces films, c'est les relations entre les personnages et les émotions intérieures de chacun et de chacune. Et du coup, l'importance de ses films et de son travail de producteur, parce qu'il a produit énormément de films, notamment Black Snake Moan avec Samuel L. Jackson. Ouais, voilà. C'est en
Shaft
fait.
Shaft aussi.
Hein. Shaft, ouais.
Ouais. Il a fait Shaft.
Et c'est aussi pour ça que.
Ah, le remake de Shaft.
Ouais, le remake avec Samuel L. Jackson.
Jackson aussi.
Ouais. Aussi, comme dans Black Snake Moan.
Ouais. Et c'est pour ça en fait qu'il a un tel poids aujourd'hui. Il y a eu ces obsèques qui ont eu lieu il y a quelques jours, je crois, hier, avant-hier, on a vu un peu tout le gratin. Il y avait Tina Knowles-Lawson et son mari, il y avait la sénatrice Maxine Waters, il y avait Ryan Coogler, Ludacris, et il y avait aussi Ruth E. Carter qui a créé les costumes de Black Panther. Donc je pense qu'il y a vraiment un respect filial en fait, du cinéma afro-américain envers John Singleton.
Dans la culture hip-hop aussi, Boys in the Hood, il est devenu tellement culte, il y a des scènes qui sont restées, genre la scène où Ricky meurt. Ça va, c'est pas grave si je spoil Boys in the Hood.
Je spoil un film de 1915.
Merde alors. Bref, la scène où Ricky meurt avec le mec, tu sais, le mec qui a un canon comme ça, il a un gun, genre un 22 long rifle, et tu sais, il roule dans la voiture, il fait un drive-by, et tu sais, t'as le regard du gars avec sa casquette rouge. Cette scène-là, elle est restée super cool. Enfin, bref, dans le rap, j'ai entendu parler de Boys in the Hood dans le
par
rap.
Par le rap,
avant même de voir le film, quoi, ou de connaître John Singleton.
Donc maintenant, vous savez qui c'est. Donc regardez ces films, Poetic Justice, Forever.
Ouais. Moi, qui vite a été suractif là sur Instagram par rapport à Singleton.
Ouais, il y a un truc, un film de le premier que j'ai vu de Singleton, c'est ni Poetic Justice ni Boys in the Hood, c'est un film que j'ai vu sur Canal Plus ado qui s'appelle Fièvre à Columbus University ou Higher Learning en VO. C'est une sorte de Dear White People en plus sombre et moins bourgeois. Il y a aussi un casting de luxe, Mike Epps, Tyra Banks, Ice Cube, Busta Rhymes, Regina King, Laurence Fishburne, Jennifer Connelly. Enfin, voilà. C'est vraiment énormissime.
Ice Cube, c'est mon gars sûr. C'est très, très sûr.
Bah, tu parlais du discours de Laurence Fishburne dans Boys in the Hood sur l'économie, sur ce qu'il faut faire et tout. Il y a cette question-là aussi abordée, mais cette fois-ci par Ice Cube qui parle aux autres étudiants en leur disant qu'ils ne connaissent pas le système, ils ne connaissent pas la Banque mondiale, le FMI, tout ça.
Tu te souviens de la dernière scène d'Ice Cube dans Boys in the Hood?
Non.
Tu sais, Doughboy, le personnage de Ice Cube dans Boys in the Hood, qui parle et qui dit qu'il a plus de frères, qu'il a plus de mère, qui disparaît à la fin. Tu te souviens de la scène?
Ça devient
un fantôme à la fin.
Bref, fin des années 90.
J'ai failli pleurer. Bref, excuse-moi.
Bref, et donc Fièvre à Columbus University, c'est une histoire de tension raciale sur un campus d'une université fictive, donc l'université Columbus, Christophe Colomb. Le film est sorti il y a 25 ans et en fait, c'est l'histoire d'un jeune étudiant athlète noir qui se révolte contre le système. Il y a des discussions. En fait, ce que j'ai trouvé d'assez exceptionnel dans ce film, c'est que Singleton a été super visionnaire. Dans ce film, il y a des discussions sur ce que doit faire un athlète pendant l'hymne américain, ce que doit faire un athlète noir pendant l'hymne américain. Okay. Il y a des questions sur des discussions sur les tueries et la circulation des armes à feu sur les campus. Il y a la montée en puissance des groupes néo-nazis aux États-Unis. Alors moi, la première fois que j'ai vu, c'était dans les années 90, et je me disais, bon, c'est un peu gros quand même, des nazis aux États-Unis qui tuent des gens sur les campus.
Visionnaire.
Mais non, parce que du coup, enfin, ils ont battu les nazis, donc non. Et puis ensuite, Charlottesville. On parle beaucoup aussi de violence sexuelle. Il y a aussi beaucoup de scènes sur justement la non-mixité. Il y a un homme blanc qui s'appelle Wayne qui est débile mais gentil et plein de bonnes intentions et qui va voir une féministe en lui disant en gros vas-y, pourquoi tu me donnes pas de flyer? Pourquoi vous restez entre vous? Et puis après, elle lui fait ouais, mais quand même, enfin vas-y, mets tes cheveux comme ça, ça te va bien. Enfin bref, c'est vraiment tout ce qu'il faut faire. Et voilà, c'est aussi ce qui moi me plaît chez Singleton, c'est qu'il a vu ça une vingtaine d'années avant, en fait, toutes ces tensions aujourd'hui qui dans l'Amérique de Trump se matérialise beaucoup sur les campus. On trouve ça à Columbus University. Donc moi, ce sera ma recommandation en mode John Singleton. Voilà, pour John Singleton. Et c'est mieux que Fast and Furious 2, qui a aussi été réalisé par John Singleton.
Alors, pour les recommandations de cette quinzaine, moi, j'ai un court-métrage d'animation à vous recommander qui s'appelle Mighty Grain Pitten. Je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti il y a quelques temps maintenant, Le Géant de Fer. Vous vous souvenez de ce film-là?
Ouais,
de dessin animé. Un petit garçon qui devient ami avec un robot géant.
Qui avait fait un flop, mais qui était très bien.
Exactement. Et ben là, c'est la même chose, mais en mille fois plus cool. La petite phrase qu'on entend, c'est incroyable en fait. J'explique. En fait, Mighty Grand Python, c'est l'histoire d'une petite fille britannique originaire de Sainte-Lucie, donc juste à côté de la Martinique. C'est une île anglophone.
30 km au sud.
Ouais, voilà, c'est une île antillaise, mais anglophone. Et donc, qui rentre au pays avec sa famille pour les vacances. Et en fait, une nuit, sur une plage, elle découvre ce robot enfoui sous le sable et la végétation, qui parle et qui bouge tout seul, qui se réveille à son contact. Et qui donc, c'est le Grand Python. Le robot s'appelle Grand Python. Et sa mission, c'est de protéger Sainte-Lucie de toutes les menaces, donc que ce soit des robots géants maléfiques ou des créatures un peu magiques, etc. En fait, Mighty Grand Python, c'est un court-métrage très inspiré de l'animation japonaise et des trucs de méca comme Gundam ou Transformers aux States.
Evangelion, ça rentre?
Evangelion, ouais. Évidemment, mais c'est beaucoup plus enfantin et joyeux que Evangelion.
Pas de labor?
Pat Labor, oui, Pat Labor, tout à fait, Macross, etc. La réal et le design des persos ont été tous faits par Wesley Lewis, qui est un Britannique d'origine sainte-lucienne, et donc qui travaille dans un studio très prestigieux qui s'appelle The Line, qui ont notamment travaillé pour Blizzard, avec des trailers animés pour Blizzard. Vous savez, Blizzard, c'est World of Warcraft, tout ça. Ils ont travaillé également pour Game of Thrones, pour HBO, etc. Ils font des trucs ultra, ultra quali. Et donc, le court-métrage, c'est un pilote qui dure à peine une minute et demie et qui...
On sait pas tellement
si ça,
bien.
On sait pas si ça va devenir une série ou pas. Moi, je croise les doigts pour que ça devienne une série. Mais il y a un truc de ouf qui se passe. Enfin, moi, dans mon esprit, il y a un truc de ouf qui s'est passé. J'ai vraiment maté le trailer genre 10 fois de suite, 10 fois d'affilée en boucle. Voir ce mélange de tous les trucs qui m'ont élevé, en fait. De robots géants, d'animation ultra fluide, avec des histoires d'amitié et d'aventure. Mais qui se passe dans un contexte entièrement caribéen avec des vraies scènes de vie. On voit tout ça vraiment en 1 minute 30. On voit la gamine qui prend l'avion. Tu comprends qu'en fait, elle part de Londres et qu'elle rentre, entre guillemets, à Sainte-Lucie. Moi, c'est un truc que je vis quasiment chaque
tous
année.
Les ans.
C'est la même histoire aussi de cette gamine, de cette héroïne qui s'appelle Connie. Ça m'a fait un truc. Et donc, là où je vous disais qu'il y a le détail qui tue, c'est la phrase qu'on entend là, à la toute fin du trailer que je vous ai mis. En fait, le robot, c'est le robot qui parle et qui dit « Moi, c'est Grand Python ». En fait, il parle créole. Le robot parle créole. D'accord. Le robot parle créole.
Quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Oui, on a le droit !» Mais oui, on a le droit.
Le robot parle créole. Non, mais
T'es sûr que c'est ce qu'il dit? Il dit pas « I am Iron Man » à la fin, non?
Non, mais c'est un truc de malade. J'étais vraiment, je vous jure, j'étais au bord des larmes quand j'ai entendu ça.
Non,
vraiment, c'était un truc de ouf et j'ai compris l'importance de la
représentation de Matter.
La représentation, non, mais laisse tomber Gundam aux Antilles, c'est incroyable. Matez ce trailer, donc ça s'appelle Mighty Grand Python. Vous n'allez.
Il y a une pétition pour.
Je sais pas s'il y a un Ulule, un Kickstarter, je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, just take
my
money.
Tu vas le lancer en fait.
Voilà, take my money and run with it. Ça, c'est ma première recommandation. Et donc, j'ai une deuxième recommandation. Je vais essayer d'aller beaucoup plus vite. C'est un reportage de Vice qui s'appelle « Comment les fans noirs de Game of Thrones ont construit leur propre univers autour de Westeros ?»
C'est mon petit reportage. Le hashtag #DemThrones.
Exactement. En fait, c'est un reportage de 10 minutes. On suit un podcasteur afro-américain qui s'appelle Rod Morrow qui explique en gros pourquoi Game of Thrones résonne autant dans la communauté noire et pourquoi la communauté noire elle-même s'approprie autant Game of Thrones. Et donc en gros, voilà, c'est ça. On suit le quotidien de ce mec qui donc a un podcast qui s'appelle Black Guy Who Does a Podcast. Ah, j'ai oublié le nom exact, excusez-moi. On suit le quotidien de ce mec et il explique également, qui parle de Game of Thrones, et il explique le succès du hashtag #DemThrones qui a beaucoup marché en France aussi. Qui a beaucoup marché.
J'étais assez surprise quand j'ai cliqué de voir plein de tweets français et tout sur #DemThrones.
Avec le même hashtag. Moi, j'aime bien le hashtag avec Arya, enfin, Sansa qui veut rester dans la crypte et Arya qui dit « Va là-bas !» Ça m'a fait triper. Et d'ailleurs, le hashtag #DemThrones a commencé via un podcast afro-américain qui s'appelle Firestarter. Voilà. Donc voilà, on plonge dans cet univers, on apprend de manière très, très simple et didactique comment les fans de toute la diaspora, donc pas seulement afro-américain, mais toute la diaspora, se sont réappropriés une série qui pourtant mais 100% blanche. Donc voilà, je trouve ça assez
un
passionnant.
Blanc, un peu plus blanche à chaque
99%.
Épisode.
Stop, ne dites rien. Mais allez voir ça, on vous mettra en lien, évidemment.
Moi, j'ai une recommandation, c'est en anglais, mais c'est pour la bonne cause. C'est un épisode d'une émission de radio qui s'appelle Rough Translation. Ça passe à la NPR, donc c'est l'équivalent de France Inter, mais aux États-Unis d'Amérique. L'épisode en question dont je vous parle s'appelle We Don't Say That, on ne dit pas ça. Dans cet épisode, on suit un journaliste congolais-américain qui s'appelle Ngofin Putumbwele, qui raconte son séjour en France. Donc je vous résume un peu. Il a grandi aux États-Unis, mais ses parents sont du Congo, il est donc francophone. Et à l'âge de 19 ans, alors qu'il est à la fac, il fait un voyage d'études en France. Il est content parce qu'il va pouvoir parler français, mais en même temps, il ne parle pas le français de la France. Ses parents sont congolais, il a grandi aux États-Unis. Selon ses propres mots, son français n'est pas chic, n'est pas fancy. Donc il a une sorte de complexe. Et pour combattre ça, il fait une sorte de mise à jour avec des Français qui lui enseignent le bon français de la France. Jusqu'à ce qu'il arrive au mot noir.
And then a friend was like, oh, actually, we don't use the word noir for people. Like, we use black. The English word black.
Black.
Black. Noir is a little bit like, but black is better, you know?
Ngofin did not question this lesson any more than the others.
I remember coming back home and telling my parents, like, do you know that in France, French, right, is like, you say black, not noir. It's like, okay, fact I learned.
I'm Gregory Warner. This is Rough Translation, the show where we take you to far-off places with stories that hit close to home.
Vas-y, François.
Non, ça me rappelle le podcast d'Arte Radio, Noir
de
pas Black.
Noir pas Black,
exactement.
Ouais. Mais là, en fait, donc, il s'ensuit une sorte d'enquête sur la blackness ou la négritude en France. Ça commence par l'emploi du mot nègre littéraire, quelque chose dont on avait déjà parlé, et de l'aventure que ça a été pour changer les mentalités à ce sujet.
Porte-plume,
prête-plume.
Il
rencontre Nelly Buffon, qui est la femme derrière Envie d'écrire et donc qui a porté cette pétition pour qu'on dise plus nègre littéraire mais prête-plume. Ça, c'est la première partie. On parle aussi des histoires d'Alexandre Dumas et de ses nègres littéraires, Carteron, La Race en France. Et puis ensuite, ils reviennent sur la particularité d'un pays qui est très, à la fois très attaché à sa langue, mais qui n'arrive pas à dire le mot noir et qui préfère dire soit black, et même plutôt nègre que noir. Donc, ils vont rencontrer des acteurs de ce sujet-là en France.
Moi, je connais des gens qui n'ont pas de problème pour dire ça. C'est Hamza et...
mais oui, mais tu vois, on y revient.
Il y a des gens qui préfèrent dire nègre plutôt que noir.
En France, si tu discutes, enfin, je vais pas me faire que des amis, mais je pense que pour beaucoup de vieux blancs en France, le mot black ou le mot nègre va sortir avant le mot noir.
Moi, j'ai parlé avec une meuf de mon âge qui m'a dit, bah là, je suis nègre en ce moment, une blanche qui nègre littéraire du coup.
Ah, ok. Mais, ouais, voilà. Elle est nègre.
Elle est nègre.
Bref, dans le reportage, ils vont à la rencontre de personnages, de femmes qui ont participé à ouvrir la voie d'Amandine Gay. Et on donne aussi la parole à Rachel Kahn, qui a participé au projet Noir n'est pas mon métier. On parle aussi de communautarisme, comment faire pour s'intégrer à la société française, toutes ces questions-là. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue extérieur sur comment nous, on parle de tout ça. Notamment, ils reviennent sur le tabou qu'est la race en France et pourquoi les Français n'aiment pas la race. Et une des pistes qu'ils donnent, c'est la Seconde Guerre mondiale et l'utilisation de catégories ethniques pour tuer des gens, pour faire des rafles et des choses comme ça, et que c'est devenu ensuite un tabou dans la société française. Donc il y a toutes ces questions sur ce que c'est d'être français, l'indivisibilité de la France,
etc. En tout cas, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un qui faisait un travail de sape sur ce que nous, on essaye de défendre en disant non, dites noir, on est en France, et qu'en fait, derrière, tu as des gens qui disent ah non, on dit black.
Non, mais c'est vraiment hyper intéressant parce que, pour le coup, ça montre aussi les espèces d'automatismes qu'on a sans forcément y réfléchir. Par exemple, dans le reportage, Nelly Buffon dit que même si elle s'est battue pour qu'on dise plus nègre, elle a du mal elle-même à dire black, parce qu'il y a aussi des questions générationnelles. Elle a du mal à dire noir, pardon, et pas black. Ouais. Qu'il y a des questions générationnelles aussi, qu'à une certaine époque, dans les années 80, quand on a eu les premiers noirs à la télévision, par exemple Sydney, l'époque HIPHOP, c'est à ce moment-là, dans les années 80, quand on a commencé à dire les blacks, parce que ça venait des États-Unis, c'était cool, c'était mignon, ouais, c'était dans le vent.
C'est compliqué, ça, hein, c'était pas compliqué. Il suffit
et
pas
le mot black rentre
gens
dans les années 90 dans le dictionnaire en français.
Oh, ouais, sérieux? Ça y est encore ou pas?
Je sais pas.
Sinon,
si
je fais
encore,
une pétition
mais
là ce soir.
C'est un truc culturel aussi, moi je suis d'accord avec ça, tu vois. C'est pas juste, les gens qui disent black, ça y est, ils sont méchants ou ils sont racistes. C'est plus compliqué, je pense.
Ouais. Bref, faites-vous une idée vous-même et c'est vraiment
mais
très
en tout
très
cas
cool.
On est noir et pas black.
On est noir.
Dans tous les cas.
Je crois même que noir is the new black. Bref, c'est du très très bon travail de la NPR. Félicitations à Ngofin. Et vous avez quelque chose à ajouter?
Nope.
Non.
Tout va bien. Alors moi, ma recommandation, c'est une émission sur l'athlète Caster Semenya, dont on a entendu parler dans l'actu récemment. Je ne sais pas si vous connaissez Programme B, si vous ne connaissez pas, c'est le podcast d'actualité de Binge Audio, donc la maison qui distribue le chip.
C'est donc, très bien.
C'est parti pour un moment de cross-promo corporate. Alors, c'est un épisode qui dure à peu près une trentaine de minutes, donc je l'ai présenté. Et pour parler de l'affaire Caster Semenya, j'ai invité Anaïs Bohuon, qui est professeure des universités en STAPS à l'Université de Paris-Sud et qui a écrit le livre « Test de féminité dans les compétitions sportives, une histoire classée X ». Alors, l'affaire Caster Semenya, c'est quoi ?
Je crois qu'il faut commencer par dire que c'est un scandale. Et à mon avis, c'est un scandale qui va marquer l'histoire du sport du 21e siècle. Puisque Caster Semenya est accusé de produire plus de testostérone que la moyenne autorisée de manière médicale, mais plus encore arbitraire. C'est-à-dire qu'une femme aujourd'hui dans le monde du sport qui produit plus de testostérone qu'une moyenne, on pourra y revenir parce que du coup cette moyenne pose question, est accusée d'avoir ce qu'on appelle dans le milieu du sport un avantage physique. Et donc on demande à Caster Semenya, plus précisément la Fédération Internationale d'Athlétisme, de réguler ses taux hormonaux en prenant des médicaments pour ne plus dépasser cette moyenne autorisée.
Voilà, donc c'est très bien expliqué. Mais ce qui est vraiment important à savoir, c'est que la Fédération vient de rendre son verdict et s'est prononcée contre Caster Semenya, qui demandait à ne pas avoir à prendre ses médicaments pour faire baisser son taux naturel de testostérone. Et du coup, maintenant, elle ne pourra plus concourir, sauf si elle se soumet et qu'elle prend ce traitement. Donc, à noter, Caster Semenya est sud-africaine et noire. Donc, le cas se teinte de misogynie noire, hein, ce délicieux mélange de sexisme et racisme.
Elle est atteinte d'un truc, c'est ça ?
Non. Non, non, c'est une femme.
Non, c'est une femme, mais elle est née avec un syndrome.
Elle n'est pas intersexe, non.
Non, elle n'est pas intersexe. Non, elle est née avec une. J'ai oublié comment on appelle ça. Mais en gros, elle a le fait qu'elle ait plus d'hormones et qu'elle ait genre des. Pas des caractéristiques masculines, mais un taux d'hormones plus élevé et certains traits masculins, c'est un syndrome. J'ai oublié comment ça s'appelle, mais elle est née.
A priori, non. Enfin, moi, en tout cas, dans l'émission que j'ai préparée, quand j'ai fait mes recherches, c'est juste qu'elle a un taux naturel de testostérone bien au-dessus de la moyenne qui a été définie arbitrairement.
D'accord.
Donc, en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs de ses concurrentes blanches qui se plaignent de concurrence déloyale et que Caster Semenya est lesbienne et mariée à une femme. Donc là, c'est la porte ouverte à toutes les accusations. Moi, je trouve ça intéressant comme cas très frustrant parce que les gens qui disent que le genre existe et c'est pas négociable, là ils sont contredits par Caster Semenya parce que si son genre est femme et non négociable, pourquoi elle devrait prendre des médicaments pour faire modifier des trucs dans sa production d'hormones quoi ? Et pourquoi le nageur homme Michael Phelps, par exemple, qui lui produit moins d'acide lactique que la moyenne, et donc c'est aussi un avantage physique, c'est-à-dire qu'il se fatigue beaucoup moins rapidement que les autres.
On lui demande pas de prendre un traitement pour lutter contre ça. Oui.
Exactement. Donc du coup, il y a beaucoup de questions qui sont posées. Récemment, Nike a fait une pub avec Caster Semenya en montrant qu'il la soutenait. Du coup, c'est un sujet très intéressant. C'est à la fois, ça mêle du racisme, parce qu'il y a vraiment ce truc de les femmes noires, elles sont masculines, elles font peur aux petites femmes blanches qui veulent concourir. On pense à Serena Williams et à Sharapova. Enfin, vraiment, il y a vraiment toute une mythologie autour du sport et des femmes. Et notamment aussi des femmes noires. Je recommande cet épisode si vous voulez comprendre un peu ce qui se passait, parce qu'Anaïs Bohuon était très pertinente. Donc l'épisode s'appelle Caster Semenya, hormones à abattre, et il est disponible sur toutes les plateformes de podcast.
Elle a hyper androgénie, voilà, c'est
oui,
ça.
Oui, parce que mais c'est juste c'est sa
ça.
Production en fait.
Oui, c'est ça.
Ouais, voilà.
C'était le chip. On revient dans 15 jours. On a des choses à annoncer. On est en train de préparer le prochain épisode live. Ce sera un truc énorme, mais on peut pas trop vous en dire tout de suite. On vous tient au courant. Restez,
vous voyez le Madison Square Garden.
Vous voyez le Madison Square Garden. Ben voilà, on arrive là. On vous en dit plus dans le prochain épisode. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram @lechippodcast. On avait annoncé un grand.
Il est toujours moche notre Instagram.
Il est toujours moche notre Instagram. On a annoncé un grand changement et ça arrive. Vous pouvez écouter et réécouter tous les épisodes du Chip sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et SoundCloud et toutes vos applis de podcast habituels.
Moi, j'utilise Pocket Cast. Pocket Cast. Je recommande, c'est trop bien.
Ouais, c'est cool.
Laissez-nous une review sur Apple Podcast ou s'il y a d'autres trucs où on peut poser des reviews quelque part. On peut poser des reviews sur Pocket
Cast. Non, je crois pas.
Il n'y a pas de reviews sur Pocket Cast.
Bon, en tout cas, sur Apple Podcast, il y en a.
Mettez
5 étoiles pour nous faire remonter dans le classement. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean-Jean, qu'on embrasse. Et aussi, merci à tout le monde chez Binge Audio.
Et voilà.
À la prochaine.
À la prochaine.
Salut.
Bisous, bye bye.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.